Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, je suis très, très heureux de présenter ce soir M. Denis Salas et surtout son ouvrage « La justice dévoyée, critique des utopies sécuritaires ». Je crois qu'on va sacrifier aux usages de la maison qui consiste d'abord à échanger entre nous sur le livre, bien entendu, et autour des thèmes qui sont abordés par l'auteur. Et puis ensuite, vous aurez la parole pour poser les questions que vous voudrez bien poser ou bien exprimer les réactions qui vous viendraient à l'esprit, bien entendu. Le débat pourra être aussi animé que vous le souhaitez. Et plus il sera animé, plus ce sera intéressant pour tout le monde, je pense. Et puis enfin, dans un troisième et dernier temps, vous pourrez vous entretenir plus directement avec l'auteur si vous souhaitez lui faire dédicacer un ouvrage ou quelque chose comme cela. Permettez-moi d'abord alors de présenter rapidement l'auteur. Hein. On viendra surtout sur son livre, mais enfin, je pense qu'il n'est pas forcément inutile de le présenter. Monsieur Denis Salas, c'est, comme vous le savez, magistrat de profession, mais il est aussi écrivain. Il a produit un assez grand nombre d'ouvrages, et celui-ci s'inscrit dans un triple horizon, il me semble. Je crois qu'en premier lieu, c'est un ouvrage qui s'inscrit bien dans la lignée de ce qu'on pourrait appeler, c'est peut-être un grand mot, je ne sais pas, il ne le récusera quand même pas, je pense, les magistrats philosophes, c'est-à-dire ceux qui, au-delà de leur pratique professionnelle, s'efforcent de penser le métier, de penser la profession et, au-delà, de penser l'institution. Et de penser l'institution dans ses rapports avec la société, qui sont des rapports toujours difficiles et toujours mouvants également. D'où l'intérêt, évidemment, de cette réflexion. Quand j'étais jeune, ça m'est arrivé, il y avait quelqu'un, un magistrat aussi, qui écrivait sous le pseudonyme de Casamayor, qui, je pense que, inutile de dire que Denis Salas le connaît bien, et qu'il a joué un rôle important dans les réflexions sur la justice. Je pense que vous ne récuserez pas peut-être la lignée, qui est tout parfaitement honorable, bien entendu. Le deuxième horizon dans lequel M. Salas s'inscrit, me semble-t-il, c'est celui des hommes révoltés. Alors, je n'utilise pas évidemment la référence au hasard, c'est une référence directe à Camus. Denis Salas lui a consacré un livre, et Camus est pour lui une référence intellectuelle permanente, très honorable là aussi, plus qu'honorable même, évidemment. Puis enfin, dernier horizon, je crois qu'on peut dire que c'est un magistrat engagé. Quelqu'un qui ne craint pas d'afficher ses opinions, sous son nom d'ailleurs, directement, ce qui montre que la justice a peut-être un peu évolué aussi. Désormais, il n'est plus nécessaire de recourir au pseudonyme, de se cacher un petit peu. Enfin, une manière, oui, c'est ça. Manière d'ailleurs qui ne trompait personne, je pense, parce que dans la profession, il est facile de trouver des repères et de déceler qui se cache derrière un pseudonyme. En tous les cas, Denis Salas le fait directement sous son nom. Il prend parti. Et il entre aussi dans le registre des préconisations. On y viendra un peu plus tard, probablement. Alors, voilà pour alors, je dirais que c'est quelqu'un qui n'est pas connu à Bordeaux et qui connaît Bordeaux, puisqu'il a été professeur à l'École nationale de la magistrature. Il a enseigné, ce qui est aussi en relation, d'ailleurs, avec son goût pour la réflexion et pour la distance critique à l'égard des pratiques professionnelles. Mais aujourd'hui, il est en poste, président d'un tribunal de grande instance, si je ne m'abuse.
Vice-président.
Donc, il est également dans l'exercice de la profession. Alors, j'en viens au livre un petit peu. Nous allons engager une sorte de dialogue, mais je voudrais poser un petit peu le décor avant d'en venir à quelques questions. C'est un livre que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'intérêt, véritablement. Je crois que c'est un livre important. On n'a pas de connivence entre nous. Je ne suis pas magistrat en ce qui me concerne. C'est la première fois que je le rencontre. Donc, je ne dis pas ça pour lui faire plaisir, même si ça lui fait plaisir, mais je le dis tout simplement parce que je l'ai pensé. Le livre est un livre sérieux. Ce n'est pas un de ces essais rapides et hâtifs qui jettent des anathèmes et traitent de ce qu'il y a de plus facile à traiter. C'est un livre qui entre dans le dur de la réflexion sur la justice. tout en étant d'une lecture malgré tout pas rebutante non plus. Ça n'est pas une thèse universitaire, hein, on n'y passe pas, on ne sue pas en le lisant, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il s'attaque à des sujets qui sont des sujets de grande dimension. Alors il y a plusieurs éléments. Moi, je vais venir là au questionnement, aux échanges peut-être, mais enfin, je dirais qu'il y a un premier élément qui est le plus anecdotique peut-être et que je laisserai de côté ou que l'on retrouvera peut-être en fin de parcours, simplement parce que c'est peut-être pas l'essentiel. C'est ce qui s'inscrit dans l'actualité la plus immédiate. Bon, vous n'avez pas, il ne vous a pas échappé que nous sommes en campagne pour l'élection présidentielle et que Nicolas Sarkozy s'est présenté à l'élection. Se présente à l'élection. Or, ce que Denis Salas appelle la stratégie de la tension à l'égard du monde judiciaire de Nicolas Sarkozy y est, dans ce livre, dénoncé avec une certaine sévérité. Bon, il y a une dimension qui n'est pas négligeable, mais enfin qui ne me paraît pas être centrale ni la plus importante. Le plus important, c'est le deuxième bloc, et je crois que c'est cela qui mérite largement d'être discuté, d'être commenté. C'est l'analyse critique des utopies sécuritaires. Denis Salas fait dans son ouvrage, il les bâtit avec un souci d'ailleurs de l'équilibre entre les chapitres, hein, il est bâti sur une opposition entre les utopies à rejeter et les utopies à poursuivre. Donc sur l'ambivalence du terme d'utopie, et il commence par faire une analyse critique et très sévère là aussi des utopies sécuritaires. Et là, on est très au-delà du factuel, on est très au-delà de l'immédiat, on est très au-delà aussi, je dirais, c'est ça qui est très important et intéressant, on est très au-delà de l'habituel langage de défense corporatiste, hein, d'une profession qui s'estime maltraitée, qui estime depuis longtemps que le budget est insuffisant, que les moyens mis à la disposition sont insuffisants. Tout ça, on connaît très bien le discours sur ce sujet, qui n'est pas forcément un discours faux, bien entendu, mais qui est connu, qui est inventorié. Ce qui est plus intéressant, précisément, c'est que Denis Salas va, dans cet ouvrage, dans la première partie de l'ouvrage, analyser ces trois utopies sécuritaires qui sont à la disons, racine du mal, peut-être, d'une certaine façon, qu'il dénonce. Je les énumère avant de lui poser une première série de questions, en tous les cas, ou d'engager la question de telle façon qu'il puisse lui-même présenter ses thèmes, en fait. Ces utopies sécuritaires, ce serait d'abord d'éliminer, finalement, le crime de la société, s'en débarrasser, l'éradiquer, faire comme si on pouvait s'en débarrasser. C'est, en deuxième lieu, appliquer l'idéologie utilitariste à la justice. C'est appliquer une idéologie qui traite de toutes les questions de justice en termes de choix rationnels et en imaginant que le délinquant lui-même, mais aussi les autres acteurs, puissent traiter de ces questions de justice en faisant une espèce d'analyse coût-bénéfice, hein, en faisant une sorte de tableau comptable des choses dont on pourrait déduire les comportements à adopter. Ceci s'appliquant aussi bien aux délinquants potentiels ou réels qu'aux autres acteurs de la scène judiciaire. Et enfin, dernière utopie sécuritaire, celle qui pousserait à éliminer ou en tous les cas au moins à marginaliser le juge de la scène de la justice, à en faire un acteur secondaire peut-être. Alors, j'en viens à ma première question, pour lui laisser la parole, je ne veux pas être trop long, c'est lui qui doit parler, bien sûr, surtout. À la racine de tout ça, il me semble qu'il y a une proposition qui est forte et sur laquelle je voudrais qu'il nous donne une première série d'explications, peut-être, qui consiste à dire que sous l'effet de l'idéologie ambiante néolibérale, il y a un glissement du sens des mots, des mots clés, en quelque sorte, qui sont ceux de la justice, et que ce glissement de sens pervertit véritablement la perception qu'on peut avoir de la justice. Qu'il y a là, dans ce glissement de sens de différents termes, qu'il y a là une atteinte à ce que doit être ou ce que devrait être la justice. Donc c'est sur ces glissements de sens que peut-être vous pourriez nous donner une première
En tout cas, merci beaucoup de votre lecture, de votre présentation extrêmement complète. Et merci beaucoup au public d'être présent aujourd'hui. Avant de répondre à cette question, un point sur la genèse un peu de ce livre qui s'inscrit dans un parcours, si vous voulez. Moi, j'ai commencé à travailler sur la justice il y a une quinzaine d'années. À l'époque, c'était la fin des années 90, début des années 2000. On avait le sentiment que les choses pouvaient bouger. Si vous voulez, que à l'époque, le gouvernement Jospin, la présidence de Jacques Chirac également, les affaires, le climat des affaires, il y avait le sentiment que les politiques ne pouvaient plus bénéficier d'une impunité et que la justice devait bénéficier d'une sorte d'impartialité nécessaire, notamment les procureurs. Et l'idée s'est faite jour d'une justice beaucoup plus indépendante qu'elle ne l'est, surtout dans une culture politique française qui a toujours ignoré l'existence d'un pouvoir judiciaire, sans remonter à Montesquieu et à Tocqueville, ni Casamayor plus près de nous. C'est une constante de notre culture politique depuis très longtemps. Et brusquement, à la faveur de ce phénomène des affaires, de la lutte contre la corruption, de l'émergence des juges d'instruction aussi, dans ce contexte, au niveau français, mais aussi au niveau européen, on a pu imaginer que, enfin, nous allions avoir une démocratie libérale digne de ce nom, avec des contre-pouvoirs, avec une capacité pour la société civile de saisir la justice et de faire juger ses affaires. Je rappelle qu'à cette époque-là, nous avions eu l'affaire du sang contaminé, les affaires de corruption politique, les affaires de crimes contre l'humanité, dont on oublie qu'elles sont liées à l'action, à l'activisme des juges et des associations, qui ont pu sortir, si vous voulez. Donc vous aviez là le sentiment qu'un, ce que j'avais appelé à l'époque un tiers pouvoir, pouvait naître là où jusque-là rien n'existait. C'était peut-être une illusion, en tout cas une illusion à laquelle j'ai travaillé à cette époque-là, puisque au début des années 2000, les choses ont complètement basculé, avec l'élection de Jacques Chirac et avec la nouvelle majorité. On a complètement renversé ce mouvement et on est revenu, si vous voulez, à une situation beaucoup plus classique et on l'a même beaucoup aggravée. Il y a eu trois phénomènes qui ont joué. L'écrasante supériorité à l'époque d'un ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, sur le ministre de la Justice, sur les ministres de la Justice, qui n'ont pas eu d'existence politique. Il y a eu évidemment l'effet 11 septembre, qui a instauré, après les années 2000, un climat de mobilisation générale de lutte contre le crime. C'était la priorité. Ce n'était pas les droits, alors qu'avant, c'était plutôt les droits. Et puis, il y a eu, pour nous autres magistrats, une affaire très importante, l'affaire d'Outreau, qui a vraiment placé le monde judiciaire sous le regard de l'opinion et qui l'a jugé impitoyablement. Trois affaires qui ont complètement retourné, je dirais, l'opinion publique, qui était plutôt dans un climat de soutien à un tiers pouvoir et qui est devenue finalement assez indifférente à cette question-là, au profit d'une volonté de lutte contre le crime délibérée. À partir de là, s'est installé peu à peu un autre climat politique que j'ai appelé dans un livre précédent le populisme pénal, qui est, je le résume d'un mot, non pas une loi, un fait divers seulement, mais au nom de la lutte, c'est un style politique en quelque sorte, au nom de la lutte contre le crime, au nom de la défense des victimes, la moindre faute commise par un juge, par un procureur, par un fonctionnaire, par un éducateur, va être délibérément pointée du doigt, stigmatisée, et dès lors, effectivement, il n'y aura aucune excuse qui lui sera trouvée. La question n'est pas comment agir ou comment penser, mais à qui imputer la faute commise par le crime. Vous vous souvenez, dans l'affaire de Chambon-sur-Lignon, encore récemment, on a eu le même discours de la dénonciation qui s'est manifesté. Donc, la vie politique et judiciaire s'est complètement transformée et nous avons une situation actuellement sur laquelle je voudrais insister, si vous le permettez, Nous avons une magistrature complètement fracturée entre, d'un côté, les procureurs, qui sont du côté de l'exécutif, pour le dire très grossièrement, en tout cas, qui sont attraits de ce côté-là, et de l'autre côté, les juges, que nous n'avions pas dans les années 90. Nous avons un budget de la justice, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, complètement absorbé par le budget des prisons. Je rappelle que c'est 39% de ce budget qui est absorbé par les prisons actuellement, et non pas pour les juridictions. Vous avez une carte judiciaire qui a été reconstruite essentiellement pour des raisons comptables et non pas pour le besoin du justiciable, en gommant complètement la notion de justice de proximité. Et vous avez une délégitimation dans le discours politique de l'action des juges et l'usage de la responsabilité disciplinaire contre les juges indociles qui déplairaient au pouvoir, voire, il y a peu de temps, l'affaire Van Ruymbeck, qui est toujours devant le Conseil supérieur de la magistrature, et plus récemment, le conflit entre Philippe Courroy et Isabelle Prévost-Desprez, qui a valu et à Courroy une mise en examen, et à Prévost-Desprez une poursuite disciplinaire qui est également en cours. Vous voyez que le contexte est assez pessimiste, en tout cas pour moi. Et vous avez, si vous voulez, à la suite de ça, un discours politique qui va de plus en plus demander à la justice des missions impossibles. Alors, vous les évoquiez, M. Sadran, tout à l'heure. Un crime est commis, une victime est reçue à l'Élysée pour recevoir des engagements d'action et enregistrer les mesures qui vont être prises. Le climat du 20h est configuré perpétuellement par ce genre de phénomène. Et la promesse d'une sécurité parfaite vient en quelque sorte couronner cet événement médiatique. Le discours politique articulé sur l'événement médiatique vient promettre une sécurité qui, effectivement, est une promesse, et seulement une promesse, parce que le risque zéro ou le danger écarté totalement n'est pas du tout, évidemment, une réalité. Mais c'est une promesse à laquelle les gens veulent croire, surtout quand l'émotion s'empare des victimes. C'est le premier problème. Le deuxième problème, vous l'avez soulevé également, une délinquance prévisible. On demande aujourd'hui aux experts, on demande aux policiers, on demande aux juges, on demande aux professionnels de prévoir la violence qui va se commettre pour épargner de nouvelles victimes dans l'avenir. Évidemment, cette prévention s'articule, comme vous l'avez dit, sur un raisonnement utilitariste. C'est très simple. Ce qui est utile, c'est la diminution du crime. Donc, pour obtenir une diminution du crime, il faut augmenter les peines. Donc, vous voyez, le raisonnement est arithmétique. Le mal de peine doit être supérieur au profit du délit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jeremy Bentham. Le mal de peine doit être supérieur au profit du délit. Donc, on augmente en permanence les peines pour les mineurs, pour les majeurs, pour tous les autres, les récidivistes évidemment, et on espère une diminution de la criminalité. C'est le raisonnement utilitariste. Et c'est un raisonnement infini, parce qu'il n'a aucun impact sur la réalité, toutes les études l'ont démontré. Mais néanmoins, cela continue et cela continuera, parce que le pouvoir politique, effectivement, a peut-être aussi quelque intérêt à démontrer qu'il peut rassurer et protéger, même en échouant dans son activité législative. Et puis, dernière utopie, la justice. Une justice, je dirais, administrée. C'est un vieux rêve jacobin, un vieux rêve. J'évoque Robespierre, on pourrait citer beaucoup de d'auteurs. Une justice administrée, c'est-à-dire une justice qui ne serait pas, au fond, tributaire de l'aléa d'un débat judiciaire, qui finalement est nuisible en termes d'efficacité ou d'insécurité. D'où les procédures rapides, d'où l'accélération du temps de la réponse, d'où la volonté d'agir en temps réel et de compresser en quelque sorte les délais qui sont au fond des temps morts dans cette logique managériale. Donc le productivisme, la dimension managériale, la dimension de l'efficacité s'empare complètement des juridictions aujourd'hui et devient une sorte de rythme obsédant qui nous poursuit. Et puis j'en viens à votre question, les mots. Et c'est un point central dans mon livre et je suis très content que vous ayez mis l'accent là-dessus dès le début. Oui, parce que une des caractéristiques qui est propre à ce discours, c'est qu'il est capable de changer le sens des mots et de vous dire, par exemple, que ce que nous appelions la prévention spécialisée, la prévention individuelle, celle qui protège l'individu contre les risques sanitaires par exemple, ou les risques familiaux. Une prévention soucieuse de respecter l'individu a complètement changé de sens, puisqu'aujourd'hui, quand on dit la prévention, on entend la prévention de la récidive. Donc le mot prévention, aujourd'hui, signifie que nous sommes prévenus contre les dangers de l'individu contre la société. C'est la société qui veut se protéger de l'individu. Ce n'est pas l'individu que l'on veut protéger des risques. Et il a complètement, ce mot a complètement basculé. Et puis, un autre mot qui change de sens, c'est le mot « sûreté ». Dans la Déclaration des droits de l'homme, le mot « sûreté » signifie « droit imprescriptible de l'individu », article 2, article 3. C'est un mot très fort qui appartient au langage des droits naturels. Or, aujourd'hui, ce mot, finalement, il appartient à un vocabulaire, je dirais, policier, un vocabulaire administratif, un vocabulaire qui signifie « interdiction de liberté interdite, peine illimitée, avec une sorte de punition sans terme pour les individus dangereux. Mesure de sûreté, rétention de sûreté, surveillance de sûreté, ce mot est mis littéralement à toutes les sauces. Sûreté répond à dangerosité, mais sûreté répond à dangerosité avec une peine illimitée. On est très, 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 très loin, on est même à l'opposé des droits imprescriptibles de l'homme qui sont effectivement promus par la déclaration de 89. Voilà quelques exemples de ces perversions du langage. J'ai utilisé beaucoup dans ce livre les études de Victor Klemperer, qui a écrit un livre magnifique, Le langage du Troisième Reich, qui a, en tant que philologue, en tant que linguiste, qui a réfléchi aux transformations du langage nazi pendant la montée au pouvoir d'Hitler. Alors évidemment, je ne vais pas comparer ce qu'on a vécu à cette période-là, mais la technique utilisée par Klemperer, l'outil d'analyse qu'il a élaboré, cette capacité, disait-il, des mots transformés par le discours totalitaire à l'époque, de se répandre dans la société d'une manière, en quelque sorte, imperceptible. Parce qu'une fois que les mots ont changé de sens, nous en sommes tous les porteurs. Donc l'idéologie nouvelle, elle est portée par les usagers des mots. C'est très, très fort, ça. Donc, à partir de ce moment-là, elle trouve en chacun d'entre nous son propagandiste le plus actif. Donc, quand vous dites « sûreté », vous entendez « punition illimitée ». Vous n'entendez plus « droit imprescriptible ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment très intéressant de montrer que le coup de génie, c'est de transformer les mots de manière tout à fait presque chirurgicale, de diffuser ce sens nouveau et de faire de chacun d'entre nous les porte-parole de ce nouveau vocabulaire qui n'a plus de mémoire et qui finalement travestit le sens initial des mots. Donc je crois que ça fait partie de ce langage néolibéral aujourd'hui qui est véhiculé et qui finalement se répand presque naturellement dans notre société démocratique.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas, là aussi, évidemment, bon, toujours un langage relativement facile à tenir, mais une sorte de caisse de résonance médiatique qui redouble, en quelque sorte, l'effet de ces glissements de sens.
Vous avez raison. Il suffit de rappeler également que je parle maintenant des chiffres, que tous les chiffres qui sont assénés tous les jours de hausse, de baisse, de stagnation de la délinquance sont des chiffres qui sont complètement construits. On le sait, tout le monde le sait, je veux dire, dans les milieux professionnels, ils sont construits, manipulés, si vous voulez, de toutes pièces. Alors, quand ils sont incrustés comme ça dans un JT, une sorte d'effet de croyance qui se produit, et on est en quelque sorte saisi par la dimension, en quelque sorte, de l'effet de réalité qui s'attache à ces chiffres-là. Or, nous n'avons pas d'institutions indépendantes capables de donner des chiffres sur la délinquance. Nous n'avons que des institutions liées au régime politique, quel qu'il soit, l'office de traitement de la délinquance présidé par Alain Bauer et sous l'égide de Matignon. Il n'y a pas de chiffres de chiffrage indépendant. Donc à partir de là, les chiffres redoublent les mots dans la propagande, enfin dans la diffusion de ce message lié à une inquiétude sécuritaire qui doit être en permanence, en quelque sorte, soulevée.
Alors, au-delà des mots, dans les faits, il y a en effet des renversements de perspectives qui sont assez manifestes et dont on parle. J'ai entendu il y a quelques jours, enfin une quinzaine, trois semaines peut-être, Pierre Joxe qui vient de sortir un livre, alors qu'il est devenu avocat, et qui vient de sortir un livre sur la justice des mineurs. Je n'ai pas lu le livre. Mais il s'indignait particulièrement de ce qu'il considérait comme un bouleversement en la matière, et j'ai un peu retrouvé dans votre ouvrage.
Je suis dans la même ligne que Pierre Joxe. Pierre Joxe, c'est quelqu'un qui a été un grand ministre de la République et qui, après avoir été au Conseil constitutionnel, a décidé de s'engager littéralement comme avocat des mineurs au barreau de Paris. Et il découvre, lui qui n'y connaissait strictement rien à ce contentieux, il est membre de la Cour des comptes à l'origine, il découvre un univers qu'il ignorait totalement, et il découvre deux choses. Il découvre, au fond, une forme de justice très peu connue, mais qui fonctionne d'une manière presque miraculeuse, par l'énergie de ceux qui l'animent, des juges, des éducateurs, des travailleurs sociaux, des psychologues, etc., mais qui fonctionne avec efficacité et qui fait la vraie prévention éducative et qui est parallèlement complètement combattue et démantelée par la fameuse idéologie utilitariste que j'évoquais tout à l'heure, qui postule dans l'adolescent non pas un adulte en devenir qui a besoin d'être guidé avant d'arriver à la maturité, comme on l'avait pensé dans l'après-guerre, ordonnance de 1945, mais qui voit dans cet adolescent un adulte capable d'anticiper par son raisonnement les sanctions graduées qu'on va lui infliger. Donc l'idée aujourd'hui déterminante, c'est qu'on va juger les mineurs comme des adultes, ce qui révolte Pierre Joxe, parce que l'expérience lui montre en tant qu'avocat des mineurs que quand on vient d'une famille déscolarisée, quand on est déscolarisé, quand on vient d'une famille dissociée, quand on est dans un quartier en grande difficulté, etc., etc., c'est beaucoup plus difficile de parvenir à l'autonomie que quand on a la chance de naître dans des conditions plus faciles. Donc il faut dénoncer cette hypocrisie d'une soi-disant solution miracle, qui consisterait que parce qu'on va mettre des peines de plus en plus lourdes, peines planchées au tribunal correctionnel pour frapper ces mineurs de 16 à 18 ans, on va magiquement les éloigner du chemin de la délinquance. C'est totalement absurde. Or, c'est ce que nous avons fait ces dernières années, à plusieurs reprises, et le témoignage de Joxe a cette force de dénoncer cette supercherie. C'est pas idéologique de dire ça. C'est simplement s'appuyer sur les acquis d'un héritage éducatif, politique et historique de l'après-guerre, qui a démontré l'efficacité de cette justice dans l'éradication, en tout cas la limitation de la violence des mineurs. Si vous voulez. Donc je crois qu'il y a là quelque chose d'un trésor perdu, en quelque sorte, pour reprendre un mot de Hannah Arendt, un trésor perdu en termes d'éducation en particulier, qui devrait, je crois, être repensé aujourd'hui et également devrait éloigner de notre paysage les solutions trop faciles qu'on propose aujourd'hui.
Alors, sur ces dérives sécuritaires ou utopies sécuritaires, vous dites dans votre troisième chapitre qu'au fond, il y a une tentation de minimiser le rôle du juge, sinon de l'éliminer. Il n'y en aura pas, mais enfin, de minimiser son rôle. D'abord, vous faites allusion, et je pense que vous pouvez y revenir, sur la question de la suppression envisagée à un moment du juge d'instruction. Peut-être qu'on pourrait, à ce moment-là aussi, puisque nous avons eu, en tant que Français, un éclairage particulier, il est vrai, comparatif sur la justice américaine, et la procédure américaine accusatoire et la procédure inquisitoire via un juge d'instruction, avoir un petit regard là-dessus. Et puis, on s'efforce aussi de dirais, minimiser le rôle du juge en lui imposant des peines non interprétables, enfin des, oui, des, oui, peines planchers, oui, etc.
Ces deux, effectivement, la démarche réformatrice en 2009, c'était au fond supprimer le juge d'instruction. J'ai évoqué en introduction ce rôle de trouble-fête qu'il a joué dans les années 2000. Et le remplacer par quoi ? Par un procureur. Vous savez que le procureur est un magistrat, mais c'est un magistrat un peu particulier parce qu'il aiguille les poursuites, mais en même temps, il est hiérarchiquement soumis au pouvoir exécutif. Et sa nomination n'est pas avalisée par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est une nomination qui se fait directement par le politique. Donc il est très étroitement lié de ce côté-là. Donc, l'idée était de supprimer le juge d'instruction et de le remplacer par ce procureur. Et puis il y a eu deux types d'affaires, je crois, comme quoi finalement le paysage politique change assez vite. C'est l'opinion, la démocratie d'opinion, au moins cette vertu-là. Il y a eu d'abord l'affaire Woerth-Bettencourt, qui a eu celle de l'importance que vous connaissez, et puis surtout qui a démontré qu'un procureur, Philippe Courroy, qui se targuait de faire du golf avec Nicolas Sarkozy, vous vous souvenez, et d'être son meilleur ami, un de ses meilleurs amis, qui le disait un peu partout, a eu un rôle actif, en quelque sorte, dans l'étouffement de cette affaire, ou dans l'orientation de cette affaire, afin d'éviter absolument que cette affaire vienne devant un juge d'instruction qui lui aurait en fait échappé. Donc le parti pris délibéré de Courroy, ajouté à son extrême imprudence éthique, j'en dis pas plus, concernant le secret des sources des journalistes dans l'affaire des Fadettes, a discrédité en quelque sorte le parquet dans son rôle d'enquête, si vous voulez. On a bien vu qu'un parquet, qu'un procureur de la République n'était pas un magistrat impartial. Tout le monde l'a mesuré, si vous voulez. Il n'y a pas besoin d'avoir une explication de texte, si vous voulez. Donc on a bien vu que confier la responsabilité des enquêtes à un magistrat qui est aussi partial serait extrêmement dommageable pour la justice en général et son indépendance en particulier. Donc, et on s'est aperçu que le juge d'instruction, au fond, il pouvait avoir quand même une utilité de ce point de vue-là. Et on a vu après, dans d'autres affaires, l'affaire de Karachi, l'affaire, les enquêtes sur le Rwanda, à quel point un magistrat indépendant, antiterroriste, un juge d'instruction nommé comme tel, pouvait réorienter de manière systématique des affaires et trouver des solutions grâce à une enquête qui n'était pas contrôlée ni par le politique ni par la diplomatie. Donc il y avait là quand même quelque chose qui tient à l'État et à son impartialité, je dirais, fondamentalement, que heureusement nous avons pu préserver dans ce risque de dérive. Et puis il y a une deuxième affaire, vous m'invitez à en parler, l'affaire de Dominique Strauss-Kahn, qui a montré à l'évidence à l'opinion publique française qui ne connaissait pas la justice américaine à quel point cette justice est une justice qui, au fond, place sur un pied d'inégalité le fort et le faible. Le juge d'instruction fait l'enquête au nom de l'État comme tiers. Pour les deux parties, il est chargé de rechercher la vérité. Ce n'est pas l'avocat qui cherche la vérité, ni de la défense, ni de l'accusation. C'est le juge qui cherche la vérité. Dans les affaires américaines, dans la procédure dite accusatoire, le juge n'a aucun rôle, si ce n'est d'être un arbitre. Et ce sont les avocats qui, en fonction des moyens qui sont les leurs, et on a vu les moyens mis sur la table, si je peux dire, par Dominique Strauss-Kahn, en fonction des moyens qui sont les leurs, et qui peuvent effectivement avancer leurs arguments et leurs preuves, si vous voulez. Vous avez effectivement aux États-Unis, il faut être tout à fait juste, des systèmes d'aide judiciaire où les avocats commis d'office, comme on dit, sont des salariés des États, mais ils sont peu nombreux, ils ne sont pas dans tous les États, il n'y a pas ce système d'avocats fonctionnaires présent partout. La plupart du temps, l'avocat est payé par le client. Donc si l'avocat est payé par le client, vous avez deux clients face à face, il est évident qu'un client riche ne pèse pas le même poids qu'un client pauvre. Et ça, on l'a découvert dans cette affaire-là. Et on a vu à quel point, dans cette affaire et dans d'autres, ça pouvait effectivement peser très, très fortement. Et en même temps, on a vu le degré d'investissement nécessaire pour parvenir à une solution finalement qui a été profitable. Donc je pense que ces deux affaires-là ont éloigné progressivement dans l'opinion publique l'attrait que pouvait présenter la suppression du juge d'instruction et sa substitution par le procureur.
Oui, suppression du juge d'instruction qui avait été quand même fortement discutée, peut-être à la faveur là aussi de l'affaire Doutreau, où l'on a considéré que le juge, en l'occurrence, avait été exposé.
Alors justement, si vous le permettez, précisément, dans cette affaire, pourtant, elle a gravement mis en cause la magistrature et ce juge d'instruction, elle n'a pas pour autant conclu à la suppression du juge d'instruction. C'est ça qui est intéressant. Elle a conclu à la fragilité de cet homme seul
oui.
Face à des affaires lourde et combien celle-là, mais elle a conclu non pas à sa suppression, mais à l'inverse, à son renforcement dans une collégialité. Donc c'est la logique totalement inverse qui était préconisée par 6 mois de travail de cette commission d'enquête parlementaire, avec laquelle le discours ultérieur a complètement rompu. Donc je crois que là, il y a une cohérence à rétablir. Ce n'était pas une suppression qui est envisagée, c'était un renforcement. C'est ensuite que la suppression est venue sur la table.
Oui, alors, sur les procédures, juste un mot peut-être, mais puisqu'on en a beaucoup discuté quand même, elles sont relativement nouvelles, le plaidé coupable, les peines planchées, etc.
Alors, effectivement, l'utilitarisme dont je parlais tout à l'heure a conduit à littéralement, j'allais dire industrialiser, le mot est un peu excessif, en tout cas managérialiser énormément l'appareil pénal. Et à exiger une sorte d'obligation de résultat dans les peines qui sont infligées. Et en gros, pour le faire rapidement, accélération, efficacité, exécution des peines. J'insiste sur le mot exécution. Dans le schéma, je dirais, de pensée utilitariste, où la dissuasion doit l'emporter, une peine qui n'est pas exécutée est une peine qui ne fait plus peur. Est une peine qui, au fond, ôte la dissuasion, ôte sa force à la dissuasion. Donc, je pense qu'on va y venir, dans la campagne électorale, on va y venir, parce que c'est un thème très, très fort dans le discours politique aujourd'hui, des deux côtés d'ailleurs, côté Hollande ou côté Sarkozy. C'est-à-dire que l'idéologie de la dissuasion est l'axe même de la philosophie nouvelle. Et une peine non exécutée est une peine qui, au fond, une peine qui menace notre sécurité. Or, le problème, et c'est là où il faut bien le dire, actuellement, dans notre pays, les peines de moins de deux ans, ne sont pas exécutées en prison. Quelqu'un qui... Pourtant, c'est lourd, 2 ans de prison. C'est une peine lourde, une peine importante. Il faut avoir fait des choses particulièrement graves pour le faire. Eh bien, quand vous êtes condamné à une peine de 2 ans de prison, vous avez une convocation par un juge d'application des peines qui vous propose une solution pour purger votre peine en liberté, à 96% des cas, avec ce qu'on appelle un bracelet électronique, madame. Vous voyez, vous avez l'air étonné, mais un bracelet électronique. Donc, vous pouvez travailler. Mais vous avez votre bracelet électronique qui vous permet de continuer à travailler. C'est plutôt socialisant, si vous voulez, et plutôt satisfaisant. Mais vous êtes, comme on dit, entre guillemets, écroué. Vous êtes considéré comme toujours, pas incarcéré, mais écroué. C'est-à-dire vous avez toujours votre label de détenu. Or, le problème, c'est qu'il y a un malentendu. On revient au langage. Il y a un malentendu. Quand on vous dit les peines sont inexécutées, quand on vous dit il y a 100 000 peines inexécutées, on a à dire que les délinquants sont dans la rue, le crime nous menace, nos enfants sont en danger, les victimes... Etc. Non. Les peines ne sont pas inexécutées. Elles sont exécutées par des personnes condamnées en liberté, portant ou un bracelet électronique, ou faisant un placement extérieur, ou allant sur des chantiers, ou étant en semi-liberté. C'est ce qu'on appelle les aménagements de peine, si vous voulez. Et ça, c'est une construction de la loi pratiquée par les juges, tout à fait habituelle dans tous les pays. Mais la doxa, enfin, l'opinion générale qui est répandue, vous fait croire que le laxisme des juges les conduit à libérer tous les détenus et donc à proposer en quelque sorte des occasions de délinquance et ayant pour conséquence de faire des victimes. Donc je crois que là encore, il y a un travail d'explication à fournir à l'opinion publique pour lui expliquer ce qu'il en est de cet aménagement de peine. Et malheureusement, beaucoup de gens ne le savent pas et croient que, effectivement, les violeurs sont dans les rues et que les victimes peuvent être menacées à nouveau. Ce qui n'est pas le cas pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure.
Bien, alors je crois qu'il ne faut pas qu'on s'attarde trop, donc venons-en quand même à l'autre partie du livre qui est très importante également, que vous avez appelée des utopies pour demain. Il y en a trois également que vous nous présentez. La première utopie, c'est donner une nouvelle légitimité au juge. Et là, évidemment, c'est une dimension. Alors, nous sommes dans des utopies, nous sommes dans des projets, hein, c'est une construction intellectuelle qui exprime le souhaitable, qui ensuite, probablement, dans la mise en œuvre, auront à être ajustés à l'aune du possible. Mais enfin, faire du juge, en quelque sorte, d'une certaine façon, un représentant du peuple. Là, il y a la question des rapports avec les jurys et l'introduction notamment, la tendance que l'on a pu avoir à placer des citoyens dans les instances de jugement. Deuxième utopie positive, imposer ou instaurer une justice restauratrice. Je pense qu'il faut que vous expliquiez sur ce mot, sur ce terme, sur ce qu'il signifie. Et puis enfin, pour terminer, ce que vous appelez poursuivre la lutte abolitionniste vers la suppression de l'exclusion définitive, c'est-à-dire que vous expliquez que l'abolition de la peine de mort a été évidemment un très grand progrès, mais que la problématique n'est pas épuisée pour autant. Et qu'il y a, notamment en ce qui concerne les mesures de sûreté, d'autres progrès probablement à faire. Le raisonnement n'est pas évident, et il n'est certainement pas, reçu par tout le monde de façon très spontanée. Donc, sur ces points, ce que je voulais vous demander pour amorcer le débat, c'est est-ce que vous ne prêtez pas à la justice, à une justice idéale, mais est-ce que vous ne lui prêtez pas, au fond, une vertu absolue ? J'ai relevé dans votre ouvrage, page 170, la question de savoir si dans un monde laïcisé, la justice pouvait être appelée à combler tous les manques, si elle pouvait un peu jouer le rôle de Dieu, en quelque sorte. Ce serait évidemment peut-être très bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit atteignable.
Non, en tout cas, parfois, on peut lui faire jouer ce rôle-là. Non, il ne faut pas faire un livre pessimiste, négatif. Il faut donner aussi du grain à moudre pour penser un peu les alternatives à ces impasses. Alors, vous soulignez mes trois points. Rapidement, c'est vrai que j'ai évoqué dans d'autres livres un souci de redonner, au fond, à cette figure du juge une légitimité qu'elle n'a jamais vraiment eue dans notre pays. Quand on voit en Allemagne, quand on voit en Italie, quand on voit en Espagne, on est frappé des différences abyssales avec le juge français qui est porté au nu par les médias, mais qui n'a une existence extrêmement secondaire dans nos institutions. Donc je pense que là, il y a un effort de promotion au niveau constitutionnel qu'il faut faire. Ce débat n'est pas absent de la campagne électorale parce que les deux candidats principaux ont proposé de faire nommer les procureurs par un organe indépendant qui est le Conseil supérieur de la magistrature. Donc c'est quand même, là je trouve, une avancée. Ils auraient pu un peu s'en souvenir un peu plus tôt, parce que c'est une réforme qu'on voulait faire en 2000 qui a été abandonnée et qui maintenant revient sur le tapis. Donc je m'en réjouis, hein, pour tout dire. Nous avons eu des réformes importantes, je ne veux pas les négliger. La réforme du Conseil supérieur de la magistrature a été importante parce qu'elle comporte une majorité de non-magistrats, donc c'est une instance qui finalement propose des nominations et évalue la discipline avec une majorité de gens qui ne sont pas, qui sont pas suspects de corporatisme. Et puis la question préjudicielle de constitutionnalité, et la question prioritaire de constitutionnalité, pardon, a été une réforme aussi extrêmement importante qui a bouleversé l'équilibre entre la loi et la Constitution. Donc il y a eu des avancées réelles de ce point de vue-là qu'il ne faut pas nier. Il y en aura d'autres, je pense, par la suite. Simplement, je pense que la réforme du parquet que j'évoquais va dans le sens de ce que je souhaite. Je vais jusqu'à dire que le juge doit aussi être pensé comme un représentant du peuple, parce qu'il représente en quelque sorte démocratiquement l'intérêt du pays dans les affaires qu'il a en charge. Et je pense que de ce côté-là, on l'attend un peu de ce point de vue-là. On attend une responsabilité, je dirais, plus élargie du juge par rapport à ce que l'opinion peut effectivement exiger de lui. Donc je pense qu'il faut raisonner comme cela et l'inscrire dans une perspective démocratique plutôt que l'en éloigner. Et puis ma deuxième utopie, c'est effectivement une utopie de la justice reconstructive ou restauratrice. C'est au fond substituer le dialogue entre le coupable et la victime, et au fond proposer une solution globale où il faut réparer le lien social, réparer le tort subi par la victime, réparer aussi ceux du délinquant, le punir également quand c'est nécessaire, parce que la loi doit être respectée, mais en même temps ne pas négliger, si vous voulez, les demandes qui sont sous-jacentes derrière la nécessité de punir. Punir n'est pas le tout de la justice. Il doit être élargi à d'autres finalités, à d'autres styles. Et je trouve tout à fait intéressant que cette justice restauratrice ait été inventée par le pays le plus carcéral du monde, les États-Unis. Aux États-Unis, je découvrais récemment que la population noire du pays, c'est 15%. La population carcérale noire, c'est 50%. Donc vous voyez ce qui peut-être nous attend un jour si nous continuons dans cette voie-là. Donc si nous avons effectivement le souci de la modération, ayons aussi le souci de trouver des solutions équilibrées qui satisfassent toutes les parties au procès. Et ma dernière utopie, c'est tout le problème de ce qu'on fait après l'abolition de la peine de mort. Est-ce que l'abolition de la peine de mort, au fond, épuise l'énergie abolitionniste, ou est-ce qu'il faut au-delà lutter contre toutes les tentatives de restaurer des substituts à l'abolition de la peine de mort? Et parmi ces substituts, il y a ce que l'Institut pour la justice, officine néolibérale et utilitariste que je combats dans ce livre, appelle la neutralisation sélective des délinquants. Je dis bien neutralisation sélective. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un, vous le jugez dangereux, vous l'expertisez dangereux, vous organisez sa neutralisation sélective. C'est-à-dire que vous le mettez à vie dans un centre carcéral. Sans aucun souci de repérer les solutions qui pourraient, au contraire, lui permettre d'avoir une autre identité, une autre perspective. Donc je pense qu'il y a là, si vous voulez, quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Je ne voudrais pas qu'à travers des solutions de ce type, on restaure des peines d'élimination, analogues à la peine de sûreté ou de la perpétuité réelle, qui feraient réémerger indirectement des formes d'élimination qui seraient, au fond, du type de celles que nous avons connues avec la peine de mort, même si on ne peut pas, évidemment, comparer les deux. Mais en tout cas, on peut voir que ce sont des peines qui sont en substitution les unes par rapport aux autres. Je rappelle que dans le programme électoral de Marine Le Pen, actuellement, elle propose un référendum avec deux options, soit rétablir la peine de mort pour les criminels dangereux, soit la perpétuité réelle pour les délinquants du même type. Donc on a là la réémergence, si vous voulez, d'une volonté d'élimination radicale qui est, au fond, la suite, la réinvention d'une peine de mort qui ne dirait pas son nom.
Enfin, nos sociétés, de façon générale, ne sont pas complètement purgées de l'idée de vengeance.
Non, 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 non. Et d'autant plus que dans des sociétés médiatiques où le flux émotionnel est permanent, où la victime a la parole, si vous voulez, d'une manière presque pressante. L'indignation est à fleur de peau. Il y a en permanence des énergies, je veux dire, qui veulent en quelque sorte, qui réclament en quelque sorte vengeance, qui sont attisées par le discours politique et médiatique, qui montent très très rapidement et qui trouvent une traduction politique. À travers le programme de Marine Le Pen.
Oui, je précise que j'aimerais que vous en disiez un mot quand même. Vous ne faites pas l'impasse sur les victimes, c'est-à-dire que si vous mettez en garde contre cette espèce d'émotion créée autour des victimes compassionnelles, etc., dans ce que vous appelez la justice restauratrice, il y a la prise en compte
Absolument.
De la reconstruction Absolument. Des victimes.
Absolument.
Je pense que c'est un point important.
C'est un point important parce que c'est un point qu'on discute beaucoup dans mon travail. On me dit vous diabolisez les victimes parce que vous en faites le support émotionnel des lois sécuritaires. C'est vrai qu'elles jouent ce rôle-là, mais c'est un rôle qu'on leur fait jouer et qui les instrumentalise. Mais moi, j'ai étudié, par exemple, l'aide aux victimes, qui n'est pas le discours victimaire, mais l'aide aux victimes, ça n'a strictement rien à voir. J'ai étudié, par exemple, dans ce livre, je suis allé les voir à la prison de Poissy, les rencontres entre détenus et victimes. C'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que vous avez un choix de détenus qui sont au bout de leur peine, qui sont prêts à une rencontre très difficile avec des victimes qui ne sont pas liées à leur affaire, qui sont des victimes extérieures, mais vous avez une rencontre d'expérience entre l'expérience de la détention, du crime et de la détention, et l'expérience de la victimisation, qui s'est fait une fois dans notre pays, qui se fait beaucoup au Canada, qui va se refaire prochainement dans la même prison de Poissy, qui est extrêmement intéressante d'un point de vue de la reconstruction de l'individu, de la personne qui a été brisée par le crime. J'ai en tête une personne qui a perdu sa fille et qui a voulu rencontrer des criminels incarcérés et qui a pu leur poser des questions. Et qui, en leur posant des questions, a trouvé, parce qu'il y avait un certain nombre de réponses, pas toutes les réponses, un certain nombre de réponses sur pourquoi vous avez fait ça, comment vous en êtes arrivé là, est-ce que vous allez recommencer, etc., à trouver un apaisement, je dirais presque spirituel, à sa souffrance, je dirais, inextinguible. Donc vous avez là, modestement, des solutions réelles au traumatisme subi par les victimes qui sont trouvés dans ici et là, mais vous voyez, très 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 loin du tintamarre médiatique qu'on fait aujourd'hui autour des victimes.
Bien, je pense qu'il va falloir que nous passions aux questions de la salle et à l'échange avec la salle, puisque je voudrais une dernière question avant que vous donniez la parole au public. Vous terminez assez brièvement, mais enfin vous terminez quand même sur quelques propositions de réforme. Vous avez évoqué déjà le Conseil supérieur de la magistrature, les garanties qu'il faudrait donner en ce qui concerne l'indépendance du parquet. Il y a une dernière proposition sur laquelle vous glissez très rapidement, mais qui me paraît importante, mais sur laquelle j'aimerais bien avoir des éclaircissements et des compléments. Vous dites qu'il faudrait qu'une autorité représentative du corps judiciaire vienne canaliser le torrent de l'opinion. Ça reste un peu obscur,
oui.
Alors, pour moi. Donc j'aimerais que vous précisiez un petit peu votre pensée.
C'est-à-dire ce que je souhaite, c'est qu'il y ait sur les décisions de justice, sur les affaires qui sont jugées, qui sont rendues dans un climat en général peu propice à la compréhension, il y a une parole qui soit entendue et qui explique de manière pédagogique pourquoi telle ou telle décision est rendue. Au moment où j'ai écrit ce livre, je ne le savais pas à l'époque, ou je ne l'ai pas mesuré plutôt à l'époque, la loi du 10 août 2011 a décidé la motivation des verdicts de cour d'assises. Loi que je critique dans ce livre quand même pas mal, mais cette réforme est bonne, parce qu'au moins, par des motifs donnés à une décision, on introduit de l'intelligence, de la compréhension, de la délibération et non pas de la violence. On n'ajoute pas de la violence à la violence. Donc je pense qu'elle a quelque chose qui est bon. Et c'est un peu ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que la décision ne doit pas être complètement opaque pour l'opinion. Elle doit s'ouvrir à la compréhension. C'est un peu à ça que j'aspirais. Merci beaucoup et bonne soirée.